Vous écoutez RFI, il est 6h à Paris et Libreville, 7h à Kiev.
Andréane Mélard.
Allez, on y va, ça va bien se passer. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, cet accord après 2 jours de négociations.
L'Ukraine et la Russie ont accepté hier un cessez-le-feu en mer Noire, un accord fragile et sous conditions, puisque le Kremlin a directement posé les siennes, la levée de certaines sanctions occidentales, les détails dans un instant. Une semaine de mobilisation en Turquie, des milliers de manifestants hier dans les rues pour protester contre l'arrestation du principal opposant de Recep Tayyip Erdogan et plus de 1400 interpellations en une semaine, une dérive autoritaire du pouvoir condamnée à l'international. Dans ce journal, également le reportage exceptionnel de l'envoyé spécial de RFI en Syrie. Il s'est rendu dans le camp d'Orkesh en Syrie où une centaine d'enfants de djihadistes, dont des Français, attendent depuis plusieurs années de retourner dans leur pays. Et puis nous reviendrons sur cette visite inédite de l'extrême droite française en Israël. Jordan Bardella et Marion Maréchal invités à participer à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Que pensent les franco-israéliens de ce rapprochement inédit ? Nous leur avons posé la question.
Un accord de principe en mer Noire.
La Russie et l'Ukraine ont dit oui hier pour cesser les hostilités en mer Noire, annonce des États-Unis après plusieurs jours de négociations en Arabie Saoudite, mais Moscou pose ses conditions. Cet accord entrera en vigueur uniquement après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Et hier, la Maison-Blanche s'est félicitée. Les précisions pour RFI de Lubna Anaki.
Le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, parle d'une réussite. La Russie et l'Ukraine qui acceptent de cesser les hostilités en mer Noire. Pour l'entourage de Donald Trump, c'est une victoire diplomatique. Mais en réalité, on est bien loin de la proposition de cessez-le-feu initiale que les Américains avaient mis sur la table et qui prévoyait un cessez-le-feu global de 30 jours. Sans parler du fait que l'accord conclu hier ne mentionne ni quand ni comment cette trêve en mer Noire va commencer. On sait que la Russie a prévenu que ces accords n'entreraient en vigueur que sous conditions. Moscou réclame notamment la levée des restrictions sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Des demandes que nous sommes en train d'étudier, a précisé hier Donald Trump. Les Américains se disent prêts à aider Moscou à exporter ses produits agricoles sur les marchés mondiaux et cela malgré l'opposition de l'Ukraine. Un signe supplémentaire de l'alignement de Donald Trump avec Vladimir Poutine et son envie affichée d'améliorer la relation entre leurs deux pays. Lubna Anaki, New York, RFI.
Et autre annonce faite hier par les États-Unis, ce sont ces mesures que vont élaborer Moscou et Washington pour permettre l'application de la trêve de 30 jours dans les frappes sur les infrastructures énergétiques en Russie et en Ukraine. De bonnes mesures, estime Volodymyr Zelensky, le président ukrainien reçu à partir de ce soir par Emmanuel Macron, son homologue français. Tous les deux vont préparer le sommet prévu demain à Paris pour déterminer quel pays serait prêt à envoyer un contingent militaire en Ukraine en cas de cessez-le-feu.
La Turquie, toujours dans la rue, une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul.
Et principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan et les étudiants se joignent à la mobilisation. Des dizaines de milliers de manifestants ont une nouvelle fois défilé hier soir et pour la 7e soirée consécutive dans le pays où plus de 1400 personnes ont été interpellées. Dans le même temps, la justice a requis le placement en détention provisoire de 7 journalistes en les accusant d'avoir participé à des rassemblements illégaux. Des arrestations jugées très préoccupantes par les Nations Unies. La France appelle quant à elle la Turquie à se comporter comme un grand partenaire démocratique. Une dérive autoritaire du pouvoir que dénonce depuis plusieurs années le dessinateur turc Ersin Kabulut.
J'ai toujours su qui était vraiment Erdogan. Il l'a dit il y a des années. Pour lui, la démocratie, c'est un train dont on peut sauter quand on estime avoir atteint le bon arrêt. Mais les récents événements montrent que la Turquie bascule dans le totalitarisme. Jusqu'à présent, les gens ne voulaient pas manifester car c'est un délit. Et maintenant, tout le monde voit bien qu'on est passé dans une autre dimension. Erdogan tirait sa légitimité des élections. Savoir si elles étaient truquées, c'est une autre question. Toujours est-il qu'il se met à arrêter ses principaux opposants et on évoque même l'éventualité d'élections électroniques. En agissant ainsi, il franchit le Rubicon. Donc je pense que ça va continuer ainsi. Je ne sais pas comment tout cela va se terminer, car Erdogan ne peut pas non plus reculer. Il a commis trop de crimes. Il ne peut que se maintenir au pouvoir.
Ersine Kabouloute au micro de Sophie Torlotin.
C'est une question brûlante en France notamment. Que faire des enfants de djihadistes de Daesh?
Il serait plusieurs dizaines de milliers et en Syrie une centaine d'entre eux se trouvent dans le camp d'Orkesh, arrêtés il y a 6 ans avec leurs parents par les forces démocratiques syriennes dans le dernier bastion du groupe État islamique Baghouz. Depuis, ils tentent de se reconstruire, de se réhabiliter dans l'espoir de pouvoir un jour peut-être être rapatriés dans leur pays d'origine. Le reportage de l'envoyé spécial de RFI, Mohamed Erami.
145 adolescents de 13 nationalités étrangères vivent dans le camp d'Orkesh, confinés entre une cour extérieure pour faire du sport, des salles de classe et leur dortoir collectif. Dans l'une de ces chambres, Ilyes, un Français d'une vingtaine d'années, est assis et dessine pour passer le temps. Sur sa feuille blanche, il griffonne un immense pont qu'il imagine un jour traverser pour revenir en France. Ce pays qu'il n'a pas vu depuis son enfance, lorsqu'il a été emmené en Syrie par sa mère, elle-même détenue au camp des femmes étrangères de Daesh, à Roj.
Moi, jusqu'à maintenant, je sais pas, pour moi, le rapatriement, c'est juste un rêve, en fait. C'est à chaque fois, quand je réfléchis à quand je vais être libre, quand je vais être en France, pour moi, juste, je m'imagine. Et c'est une imagination, ça va pas devenir réel. Au début, quand je suis venu ici, je pensais vraiment que j'allais y aller. J'ai attendu. Je vois le temps, il passe, et non, en fait. Jusqu'à maintenant, je suis là.
Hamza, lui, est orphelin. À 23 ans, il a perdu ses parents dans les combats contre Daesh, dans la ville de Barouz, en Syrie. Livré à lui-même, le jeune homme originaire de Toulouse a été déplacé d'un camp à l'autre par les Kurdes avant d'arriver au centre de déradicalisation d'Orkesh il y a 7 ans. Aujourd'hui, il est prêt à purger autant de temps de prison qu'il faudra en France tant qu'il peut quitter la Syrie.
On a une avocate, elle est venue ici et on a signé, tu sais, qu'on se casse d'ici et on partit en France, en prison, pour voir un juge. Quand en réalité, c'est pas nous qu'on voulait venir en Syrie, on était petits, mais on a dit on n'a pas de problème, on a signé pour repartir en France. Mais jusqu'à maintenant, rien qui bouge.
Le centre d'Orkesh approche de son 3e anniversaire depuis sa création et peut actuellement accueillir jusqu'à 150 personnes. Il propose divers programmes de réhabilitation en vue de leur rapatriement vers leur pays d'origine en coordination avec les gouvernements concernés. Mohamed Erami, Orkesh. RFI.
Le Sénégal, toujours plongé dans la tourmente après la révélation d'une dette cachée de près de 7 milliards de dollars par l'administration de Macky Sall entre 2019 et 2024. Le montant a été confirmé par le Fonds monétaire international et il est bien supérieur à ce qui avait été déclaré initialement. Un scandale pour Mondiaye Cissé à la tête de l'ONG 3D. Pour lui, il faut que la justice s'empare de ce dossier et il faut une réforme pour éviter de nouveaux manquements dans l'avenir.
Ces faits confirmés par le FMI doivent amener à prendre des mesures à la fois correctives et coercitives afin que plus jamais de tels faits préjudiciables à notre économie, à l'image et à la crédibilité du Sénégal ne se répètent. Il faut prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de ces faits, mais il faut également corriger en procédant d'abord à la réforme de la loi portant transposition du code de transparence qui voudrait qu'on attende la fin d'un mandat pour constater les dégâts finalement. Parce que cette loi prévoit l'audit général des finances publiques qu'au début d'un nouveau mandat. On devrait aller dans le sens de pouvoir faire l'audit des finances, l'audit général des finances publiques à mi-mandat. Cela permet de minimiser les dégâts.
Des propos recueillis par Léa Lisa Westerhoff.
Et à noter que ce matin, notre invité Afrique et le chef de la transition au Gabon, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, entretien à suivre dans une demi-heure et sur la longueur sur notre site RFI.fr.
Au Brésil, Jair Bolsonaro va-t-il être jugé au pénal pour un présumé projet de coup d'État contre Lula, l'ancien président qui se dit victime de la plus grande persécution politico-judiciaire de l'histoire du Brésil, doit le savoir aujourd'hui, la Cour suprême le dira. Si c'est le cas, 7 autres personnes comparaîtrait à ses côtés dans cette affaire. Jair Bolsonaro risque plus de 40 ans de prison.
Hamas dehors, Hamas terroriste. Voici quelques-uns des slogans scandés hier par plusieurs centaines de Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza.
Une mobilisation pour appeler à la fin de la guerre avec Israël alors que l'armée israélienne a repris ses bombardements le 18 mars dans l'enclave palestinienne, faisant près de 800 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Parallèlement, Israël assume son rapprochement avec l'extrême droite européenne. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, et l'eurodéputé Marion Maréchal se sont envolés hier pour l'État hébreu. Ils doivent participer aujourd'hui et demain à une conférence sur la lutte contre l'antisémitisme. Un déplacement globalement bien vu par la communauté juive française, même si plusieurs voix s'élèvent. Le reportage à Jérusalem pour RFI de Samy Bourlifa.
Alors d'abord, je tiens à dire qu'ils auront un comité d'accueil.
Protester pour dénoncer la venue du Rassemblement national à Jérusalem.
On fera honneur à la tradition républicaine d'aller manifester, de dire notre désaccord à leur présence et à cette tombée de tabou en fait.
Noémie Issan-Benchimol est juive, franco-israélienne, et pour elle, pas question de blanchir l'extrême droite française.
L'histoire juive récente, notamment l'histoire de la destruction des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire même du parti politique français, anciennement Front National, depuis Rassemblement National, en fait, prouve que les liens n'ont pas... On a nettoyé la devanture, mais que les liens sont encore profonds, là, et qu'il n'y a pas eu de véritable prise en compte. Il y a simplement un positionnement extrêmement cynique d'instrumentalisation. Et que non, en fait, on ne va pas normaliser la xénophobie, le racisme.
Un positionnement marginal au sein de la communauté franco-israélienne.
Pour moi, Bardella, ce n'est pas un facho.
Mordechai Seba vit à Jérusalem depuis près de 30 ans. Aujourd'hui, en tant que juif français, il dit choisir le Rassemblement National plus par dépit que par adhésion.
Qu'est-ce que vous avez comme choix ? Quel homme politique sur lequel on... Macron, pour moi, c'est n'importe quoi. Mélenchon, c'est pire que n'importe quoi. Tandis que Bardella, non. Et je pense qu'il est moins proche des fachos que le père de Madame Le Pen.
Vu d'Israël, ce rapprochement avec le Rassemblement National paraît assez logique. Le gouvernement israélien est lui-même composé de partis d'extrême droite. Samy Bourtifa, Jérusalem. RFI.
On termine comme chaque matin ce journal avec une page culture et de la musique. Aujourd'hui, à la découverte d'une jeune rappeuse sud-africaine engagée.
Yugen Blackrock, elle sortira le 21 mai prochain son troisième album, The Illusion of Being. Plusieurs singles sont déjà disponibles. Olivier Roger décrypte avec nous ce nouveau phénomène, figure montante du hip-hop conscient.
Yugen Blackrock est une rappeuse à la culture encyclopédique, fan absolu du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, férue de mythologie en tout genre, passionnée de littérature. Elle écrit un rap conscient, habité et politique.
La découverte du hip-hop m'a permis d'élargir ma curiosité. Il y avait tellement de matériaux que je ne comprenais pas, des choses qui venaient de rappeurs américains qui parlaient de leur lutte. Donc j'ai dû passer beaucoup de temps enfermé à la bibliothèque.
Si le socle est politique, la musique emprunte ses mélodies envoûtantes au trip-hop des années 90, sous le flow de Yugen Blackrock et la férule du compositeur Kanif the Jatmaster, ces mélodies déploient une amplitude et une richesse qui en font de véritables odyssées lyriques. Si le nouvel album de Yugen Blackrock ne sortira qu'en mai prochain, plusieurs titres sont déjà disponibles sur les plateformes. Il révèle une forme de continuité avec les deux précédents albums, un univers cérébral et méditatif où le questionnement n'exclut pas l'insouciance.
Yugen Blackrock a retrouvé plus en longueur à 9h10, heure de Paris sur RFI.
Et oui, ce sera notre choix musical ce matin avec Olivier Roger. Merci à vous, Alban Le Prince. 6h13 à Paris, RFI Matin. Avec vous pour les 3 prochaines heures, comme chaque jour au programme, chronique, invité, reportage. Ce matin, nous serons en Turquie où la contestation se poursuit toujours très forte. 7e soir consécutif de mobilisation hier. Les étudiants sont très mobilisés. Certains boycottent les cours et ils ont été soutenus pour cela par un syndicat d'enseignants qui a appelé ses membres à ne pas faire cours, ce qui a immédiatement entraîné la mise en place d'une enquête par les autorités turques.
Nous pensons que cette enquête a pour but de créer un climat de peur pour faire cesser la mobilisation, pour faire taire toutes les organisations d'opposition. C'est une violation de nos droits inscrits dans la Constitution et dans les accords internationaux.
Reportage à écouter à 8h, la Turquie et la répression du mouvement de contestation. On va largement y revenir ce matin avec nos correspondants et avec notre invité à 7h20, le bâtonnier du barreau d'Istanbul. Autre invité sur RFI ce matin, le chef de la transition gabonaise, Brice Clotaire-Oligui. Nguema, entretien à écouter dans une demi-heure. Notre dossier du 7h30 ce matin est consacré à l'alerte lancée par des organisations africaines de la société civile. Pour elles, le système judiciaire africain pénalise plus durement les femmes.
Dans nos sociétés, une femme est censée être douce, maternelle, se comporter d'une certaine façon. Si elle sort de ce cadre, cela influence la manière dont la justice la perçoit. Prenons l'exemple d'une femme qui tue son partenaire. Personne ne cherche à comprendre ce qui l'a poussée à agir. Tout de suite, c'est « une femme ne fait pas ça ».
Dossier à retrouver dans le journal de 7h30. Autre dossier ce matin à 8h, la visite en Israël de Jordan Bardella, président du RN, parti d'extrême droite français. Puis on va aussi beaucoup parler de l'Ukraine encore ce matin, alors que la situation reste plutôt floue depuis l'annonce hier par Washington d'un accord de cessez-le-feu en mer Noire, mesuré d'un côté comme de l'autre. On y revient dans nos journaux, RFI Matin, à suivre aussi le sport, la presse. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est l'un des nombreux sujets où Chine et États-Unis se font face, l'espace compétition aux multiples facettes qui englobent innovation technologique, exploration, capacité satellitaire et application militaire. On en parle ce matin avec notre envoyé spécial permanente en Chine. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
En ligne avec nous de Pékin, Cléa, dites-nous pourquoi cette course à l'espace mérite-t-elle toute notre attention ?
Eh bien, parce qu'elle va bien au-delà de la Lune ou de Mars. Et ce qui est en jeu, c'est la suprématie technologique, l'influence géopolitique, la puissance militaire et bien sûr d'immenses opportunités économiques. Et l'espace, en fait, est devenu un outil de prestige, hein, une sorte de levier d'influence. Donc mener des missions, poser des drapeaux, envoyer des robots, ce sont autant de gestes qui affirment la place d'un pays sur la scène internationale. Alors d'un côté, on a les États-Unis avec les accords internationaux d'Artemis et de l'autre, on a la Chine qui s'est alliée à la Russie avec son propre programme lunaire et on a là deux visions et deux alliances différentes. Et maintenant, aujourd'hui, si vous voulez, les satellites sont devenus vitaux. Entre la navigation, la communication, la surveillance et le renseignement, eh bien, Washington et Pékin développent des armes anti-satellites et des engins capables de défendre leurs ressources en orbite. Donc, en fait, si vous voulez, le contrôle de l'espace, c'est devenu du pouvoir sur Terre. Mais cette course, elle stimule aussi l'innovation parce qu'entre intelligence artificielle, robotique, technologie de pointe, tout ça transforme l'économie. D'ici 2040, le marché spatial pourrait peser 1000 milliards de dollars entre haut débit mondial, tourisme spatial, exploitation d'astéroïdes ou de ressources lunaires. Donc les ambitions, elles sont claires, mais les règles, elles restent à être définies.
Et dans quel domaine, Cléa, les deux pays sont-ils au coude à coude ?
Eh bien, commercialement, la Chine avance très vite. Elle veut concurrencer SpaceX avec ses propres fusées réutilisables attendues dès cette année, portées par de gros investissements publics. Et d'ici 2030, certaines entreprises chinoises pourraient rivaliser avec les Américains. Et côté satellite, Pékin a déjà dépassé la Russie et devient donc le principal rival des États-Unis. En 2024, ces systèmes ont été classés parmi les meilleurs en télédétection. Et donc, il y a là un vrai signal. La Chine progresse vite dans l'observation de la Terre. Et militairement, elle teste des satellites capables de manœuvres complexes, presque comme des combats en orbite. Et ces tests inquiètent parce qu'ils renforcent l'idée d'un espace de plus en plus stratégique et de moins en moins neutre.
Quels sont, Cléa, les défis à relever ? Qu'est-ce que ça implique pour le reste du monde ?
Eh bien, pour les États-Unis, il faut maintenir l'avance et cela exige innovation, coordination et moins de dépendance à des acteurs comme SpaceX. Mais la loi interdit toute coopération directe avec la Chine. Eh bien, ça limite les échanges et ça augmente les tensions. La Chine, quant à elle, progresse mais reste en retard sur certaines technologies. Son secteur privé manque d'agilité et sur la scène internationale, on le sait, elle reste assez isolée. Donc, résultat, il y a un risque d'un espace divisé avec des règles floues, des tensions croissantes, des collisions ou bien des cyberattaques. Mais c'est aussi des opportunités pour les puissances émergentes. Alors la question est posée, est-ce que l'espace restera un lieu de coopération ou bien un terrain de confrontation durable ?
Cléa Broadhurst en direct de Pékin avec nous ce matin. Merci Cléa. RFI Matin, Pékin, Washington à la une ce mercredi, tout comme la Turquie, le pays théâtre d'un important mouvement de contestation depuis l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, principal opposant au président turc Recep Tayyip Erdogan. Depuis une semaine, en marge de ce mouvement, plus de 1400 personnes ont été interpellées. Et hier, mardi, un tribunal d'Istanbul a ordonné le placement en détention provisoire de 7 journalistes turcs, dont un de l'agence France Presse. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Ce matin à 7h20, votre invité est l'ancien député turc İbrahim Kaboğlu, bâtonnier du barreau d'Istanbul.
Oui, il est l'un des acteurs du mouvement de contestation qui secoue la Turquie depuis mercredi dernier, depuis l'arrestation du maire d'Istanbul. Des dizaines de milliers de personnes sont mobilisées et notre invité participe activement au mouvement. Il a lui-même manifesté à Istanbul 6 soirs de suite. Acteur de la contestation, İbrahim Kaboğlu est aussi victime de la répression en cours. Il en a effet été révoqué il y a quelques jours de son poste de bâtonnier, comme les membres du Conseil de l'Ordre des avocats d'Istanbul. Il va nous dire comment il juge les événements de ces derniers jours, jusqu'où peut aller la nouvelle dérive autoritaire du président. président turc, quels sont les objectifs du mouvement actuel et de quels moyens l'opposition dispose-t-elle pour faire entendre sa voix. Rendez-vous dans une heure.
Arnaud Pontus est l'invité international d'RFI, à retrouver à 6h20 en universel, et la Turquie, on en parle évidemment dans nos journaux. À 7h, nous appellerons notre correspondante sur place. En France, les scandales qui touchent les établissements scolaires catholiques se multiplient, à l'image de Notre-Dame de Bétarame, du nom de cette institution située dans le sud-ouest du pays, et des nombreuses affaires de violences physiques et sexuelles qui y sont rattachées et qui éclaboussent jusqu'à l'actuel Premier ministre français François Bayrou, accusé d'avoir caché les faits et l'INIR, l'instance nationale de reconnaissance et de réparation, note un effet Bétarame avec un pic de sollicitation de victimes depuis février dernier. Cette instance, créée fin 2021 par la Conférence des évêques de France, indemnise et accompagne les victimes de pédocriminalité dans l'Église. Elle présentait hier à la presse son rapport 2024. Depuis sa création, elle a accompagné 1580 personnes, dont Gilles, qui a pu s'exprimer hier. Marie Casadebé a assisté à sa prise de parole.
Bonjour, je m'appelle... Je suis un peu ému, hein, excusez-moi.
Gilles Tillet a 53 ans, il est scénariste.
Je vous ai dit oui il y a 2 mois et maintenant je suis là, waouh.
Gilles avait 10 ans lorsqu'il a été violé par le père Prénat, un prêtre à l'origine d'un des plus gros scandales pédocriminels au sein de l'Église en France. Les souvenirs du quinquagénaire n'ont ressurgi qu'en 2019.
Pendant le procès Prénat, la veille du verdict, je me suis mis à avoir d'importantes crises d'angoisse, de panique, crises de larmes, d'insomnie. Et je pensais que c'était dû à mon travail, parce que j'ai toujours galéré dans mon travail. Et j'ai revécu concrètement les scènes de viol de Prénat.
Gilles décide de porter plainte, mais comme pour beaucoup d'autres victimes du prêtre, les faits sont prescrits. Sur les conseils d'un cousin, il contacte donc l'INIR, l'instance de reconnaissance et de réparation pour les victimes de l'Église.
Quand on est violé à 9-10 ans, comme c'est mon cas, mon cerveau il a switché. Comme c'est le passé et que c'est loin, est-ce que c'est vraiment arrivé? Ça, c'est vraiment là une question atroce, quoi. Comme toute la société, elle maintient que c'est pas arrivé. Ah bon, je savais pas. Ah bon. Tout le monde savait. Mais n'empêche, ça met dans le cerveau un vrai doute. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit un document que j'ai apporté.
Gilles sort d'un sac un épais dossier. Il y a compilé des articles sur le père Prénat, des photos personnelles de l'époque, les récits de ses souvenirs. C'est avec ces documents qu'il rencontre les professionnels de l'INIR. Avec leur aide, le quinquagénaire parvient à comprendre l'ampleur des conséquences des viols qu'il a subis.
J'ai pu déconstruire ma vie. J'étais vierge jusqu'à mes 28 ans. Moi, j'étais un bon élève, quoi. Donc, pourquoi derrière 25 ans de RSA, il y a vraiment un énorme problème, en fait.
Le RSA, un complément de revenus pour les travailleurs les plus pauvres.
Donc, réaliser que j'avais été violé plus la démarche avec l'INIR m'a permis immédiatement quasi de sortir du RSA. Je me suis installé avec mon copain aussi, alors que ça faisait 14 ans qu'on était ensemble. C'était concret. Qu'est-ce que ça fait de violer un gamin? Voilà. Qu'est-ce que ça fait sur son cerveau?
Si Gilles parle aujourd'hui, c'est pour encourager la parole des autres victimes. Alors il se réjouit quand elles se libèrent, tout comme récemment avec l'affaire Bétarame.
On n'imagine pas le courage des personnes. Hein. C'est incroyable ce que ça demande, en fait. Ces gens-là, mais bravo, quoi.
Un bravo que lui renvoie la salle, chose rare en conférence de presse.
Reportage de Marie Casadebé, RFI, 6h23 à Paris. Notre question d'environnement ce matin, on parle pollution plastique, véritable fléau pour l'environnement. Le plastique est partout, les microplastiques et nanoplastiques, parfois invisibles à l'œil nu, sont disséminés dans le sol, dans l'air, mais aussi dans l'eau. Et aujourd'hui, on s'intéresse notamment aux conséquences que ça a sur nos plantes. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Du service climat-environnement d'RFI en direct avec nous ce matin. Pauline, vous nous dites que la pollution plastique aurait donc un effet sur l'évolution des plantes.
Oui, une récente étude a évalué les baisses potentielles de la production agricole. Conclusion, les récoltes de cultures de base comme le blé, le riz et le maïs pourraient être réduites de 4 à 14%. Plusieurs raisons seraient en cause, y compris une altération de la photosynthèse. Mais ces données sont à prendre avec précaution. Les connaissances scientifiques sur l'impact des microplastiques sur les plantes sont encore en cours de construction, note Filippo Vaccari, doctorant à l'Université de Plaisance.
Dans la littérature scientifique, il y a souvent des
avis divergents. Certains chercheurs trouvent des différences au niveau de la physiologie même de la plante, d'autres en trouvent moins, mais ce qui est établi, c'est que cela modifie les micro-organismes au niveau du système racinaire.
Car micro et nanoplastiques les côtoient de près, or ces petits plastiques viennent avec leur cours.
Les microplastiques dans l'environnement ont tendance à former un biofilm autour d'eux. C'est comme un environnement où les bactéries, les champignons et les micro-organismes vivent. Il y a donc des micro-organismes qui sont adaptés pour vivre sur le plastique. Dans cet environnement-là, il y a certaines bactéries qui peuvent être pathogènes pour la plante. On sait aussi que ces micro et même nanoplastiques peuvent être véhiculés par le vent, la pluie, et ils peuvent donc transporter les pathogènes dans la plante ou les mettre en contact avec la plante.
Et tout ça, Pauline, eh bien, ça peut perturber le fonctionnement de la plante.
Un peu comme nous n'allons pas bien quand notre microbiote est perturbé. Les plantes sont plus susceptibles d'être stressées, d'être moins résilientes. D'autant que ce n'est pas le seul danger que représenteraient ces microplastiques au contact des racines. C'est ce que souligne avec prudence Marie-France Dignac, directrice de recherche à l'INRAE.
Ça peut modifier en fait la porosité, la présence d'eau et d'air dans le sol. Et puis aussi, on sait que ces microplastiques ne sont pas neutres, ne sont pas inertes, ils ont des substances chimiques associées. Donc ça pourrait être ces substances chimiques qui sont dans les plastiques qui sont aussi libérées dans le sol.
Et tout cela pourrait bien modifier les services que rend la plante.
Le cycle du carbone, donc la manière dont les micro-organismes vont dégrader le carbone et l'incorporer au sol est modifié. Le cycle de l'azote également, la manière dont les micro-organismes vont rendre disponible l'azote du sol pour les plantes.
Or, l'absorption de carbone permet de limiter le réchauffement climatique et puis cela pourrait être, dans certains cas, une porte d'entrée dans la chaîne alimentaire. Beaucoup de pistes à suivre, donc, dans ce champ de recherche assez récent.
Merci, Pauline Glaise. C'était notre question d'environnement sur RFI. Tout de suite, un petit passage par notre playlist du mois. Le titre « Système, système, voilà avec l'as ». Avec l'AS et le titre Système Système à retrouver sur notre playlist du mois de mars. Vous pouvez encore en profiter un tout petit peu de cette playlist à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, à retrouver aussi sur notre site RFI.fr.
Priorité santé.
Chantal Laureau vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
aujourd'hui.
Comment enrayer la hausse alarmante de la malnutrition infantile dans le monde?
Demain.
Quelle attitude adopter face à un interlocuteur agressif? Ça s'apprend.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
comment enseigner aux élèves la recherche de l'info juste à l'ère du numérique?
Demain,
rediffusion de notre émission sur les femmes amérindiennes, des victimes invisibles aux États-Unis.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.